20h, le journal du classique avec Jean-Michel Duez depuis le Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Avec le CIC, partenaire fondateur.
Bienvenue au Grand Théâtre de Provence pour ce journal du classique spécial Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, journal en public, et merci au public d'être présent pour ce journal. Applaudissements nourris, faut bien le dire. Et merci à nos deux invités qui ont participé. On va dévoiler un petit peu les coulisses, qui ont participé aux applaudissements. Gérard Cosset et Clémence de Forceville, bonsoir.
Bonsoir.
Alors le Festival de Pâques, et là je cite l'éditorial de Renaud Capuçon et de Dominique Bluzet, célèbre cette année deux grandes figures de la vie musicale française. D'une part, Jean-Claude Casadesus, qui a donné un magnifique concert hier soir ici au Grand Théâtre, absolument. Hein, avec à la tête de l'Orchestre National Symphonique de Lettonie, il y avait notamment la violoniste Anna Agafia-Higgins, qui a fait un très beau concerto numéro 2 de Mendelssohn. Et d'autre part, la seconde grande figure de la vie musicale française, c'est vous, Gérard Cosset. Alors comment vous recevez cet hommage ?
Eh bien, autant avoir du plaisir à recevoir l'hommage. Je crois qu'on n'est jamais préparé pour cela, mais je crois qu'il faut... Voilà, en toute simplicité, mais ça me fait vraiment...
Ça vous fait plaisir, ça vous touche.
Oui, ça me fait très plaisir, ça me touche, oui, bien sûr. Ouais.
D'autant que vous êtes un habitué du festival.
Eh bien, je crois que j'ai ce privilège, c'est un immense privilège, et que je participais à tous les festivals. Ouais. Donc, vraiment, je suis privilégié de ce côté-là. Et donc, cette fête, voilà, cette carte blanche, c'est du bonheur.
Alors justement, on en vient à cette carte blanche. Vous, Clémence de Forceville, c'est la première fois que vous participez au,
oui,
au festival. Voilà,
fois,
c'est
ouais.
Votre. Ça va, les premières impressions sont bonnes.
C'est génial.
Ouais. Bon, vous restez parce que ce soir, effectivement, il y a ce concert. Alors, vous l'avez déjà donné hier à Manosque, dans les Alpes de Haute-Provence, sans Renaud Capuçon. Donc, vous êtes invité, Gérard Cosset, pour cette carte blanche au Conservatoire Darius Milhaud, qui est l'une des autres salles avec évidemment le Théâtre du Jeu de Paume, des concerts du Festival de Pâques. Et vous avez donc vous-même invité quatre autres instrumentistes, donc Clémence de Forceville, Renaud Capuçon, le violoncelliste Clemens Hagen, et puis François-René Duchâble au piano. Alors ce sont plusieurs générations d'artistes. Ouais. Hein. Vous êtes la Benjamine, je crois, Clémence de Forceville.
Oui.
On peut le dire, voilà. Ce sont des amis que vous avez choisis.
Ah, mais ce sont des coups de cœur, bien sûr.
Des coups de cœur.
Oui, oui. Moi, je fonctionne toujours... Il y a toujours un côté... C'est très subjectif, bien sûr.
Ouais. N'écoutez pas Clémence de Forceville, on va savoir le coup de cœur que vous avez eu pour Clémence.
Alors, c'est quoi tout cela est avouable. J'avoue, je peux me confesser sans rougir.
Bon.
Clémence, nous nous sommes rencontrés. Elle faisait partie du trio Sora. Ouais. Donc, le trio Sora qui est très connu. Et ces trois jeunes femmes m'avaient invité pour que nous fassions du quatuor.
Oui, c'est quatuor ça de Brahms. Ouais.
Voilà, quatuor de Brahms, que nous avions joué à Versailles.
Potager du Roi.
Au Potager du Roi, à Versailles.
Versailles, château de Versailles.
Voilà, et ça a été le début. Mmh. Et bien sûr, qu'on le veuille ou pas, on a l'oreille qui est sélective. On ne sait pas toujours pourquoi, mais elle est sélective. Et ben voilà, c'était Clémence. J'ai aimé son jeu, sa sonorité... le naturel de son jeu, quoi.
Alors, comment vous avez réagi à l'époque et comment vous réagissez encore, Clémence de Forceville, maintenant, devant ce bel hommage, en tout cas, oui.
Bah, évidemment, ça me fait très plaisir. Et puis, c'est un privilège. Mmh. Et surtout que moi, Gérard Cosset, depuis petite, forcément, quand j'entendais des disques, la radio, pour moi, c'est la légende de l'alto. Enfin, pour moi, le plus beau son d'alto. Donc forcément, déjà jouer avec Gérard à l'époque avec le trio Sora, j'étais ravie. Et puis avoir l'occasion de jouer de nouveau, c'est juste pour moi un immense privilège.
Donc quand il vous a invité ici à Aix-en-Provence, c'était évident, vous ne pouviez pas refuser l'invitation.
Ah ben non.
C'est un plaisir que de... Bon, très bien. On va parler un petit peu du programme qui est très varié et qui offre finalement une belle palette plusieurs combinaisons d'instruments. Hein. Et vous commencez par Hummel, une œuvre qui est finalement assez peu connue, c'est la fantaisie, voilà.
Oui, donc, c'est alto, une fantaisie.
Piano.
C'est ça, qui est extraite d'un pot pourri de Hummel. Disons que c'est une pièce festive qui démarre bien, avec ses premiers accords comme une ouverture d'opéra italien, comme ça, un peu flamboyante.
C'est des opéras d'ailleurs de Mozart, puis un petit peu de Rossini aussi, c'est assez un petit peu, oui. un peu pourri. Donc le jeu, c'est d'essayer de reconnaître les thèmes qu'il utilise, non, c'est ça?
Absolument. Ouais, ouais. Alors, est-ce qu'il faut révéler? Bon, le grand thème, bien sûr, c'est un thème de Mozart, du Don Giovanni. Il y a Don Ottavio qui. C'est un thème qui a plu beaucoup à Hummel. Voilà, j'en dis pas plus. Bon. Il faut que chacun
découvre.
Mette un nom là-dessus. Mmh. Ça, c'est pour Hummel. Mmh. Et c'était bien. Donc, c'est l'alto et piano avec François René au piano, bien sûr. Et ensuite, je crois que c'est Clémence.
Oui.
Voilà, absolument. Les trois romances de Clara Schumann, c'est ça. Hein, piano-violon, c'est ça. Ouais. Alors, là, qui a choisi cette œuvre d'ailleurs? Comment s'est fait le programme?
C'est toi, Gérard.
C'est Gérard. Bah oui, c'est sa carte blanche en même temps, c'est normal.
Je
sais pas, je dis ça, mais
j'ai suggéré.
On va tout savoir.
Mais il fallait qu'il y ait l'acceptation, bien sûr, de l'interprète, et je crois que Clémence, ça lui a beaucoup.
Ah oui, non, j'étais ravie. En fait, c'est la première fois donc que je jouais ces pièces. J'ai découvert aussi ces romances, et c'est une très belle découverte. J'avais joué d'autres choses de Clara Schumann, son trio, avec piano notamment. Et les romances, c'est assez peu joué, mais quand même, j'ai pu trouver plusieurs enregistrements assez beaux de ses œuvres, et c'est très bien écrit, c'est très touchant, ça donne beaucoup de liberté, c'est gratifiant pour le violon aussi.
Donc, comment vous acceptez une nouvelle partition? Vous dites oui tout de suite ou vous voulez d'abord la regarder?
Ça dépend, en fait, ça dépend qui demande, et ça demande, ça dépend aussi quel répertoire. Si c'est des œuvres totalement inconnues ou des œuvres contemporaines, bien sûr, il faut jeter un œil, voir où on met les pieds. Clara Schumann, c'est quand même un grand nom du répertoire de la musique classique. Donc, même sans avoir joué ses pièces, pour moi, c'est une chance de découvrir une nouvelle œuvre, d'apprendre une nouvelle partition, et je sais qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise avec ça.
Et d'ailleurs, il n'y en a pas eu, parce que vous avez déjà donné, on va revenir, ce concert hier à Manosque. On va écouter un petit peu de musique. Schumann, Robert, c'est le quintet avec piano. Alors Gérard Cosset, vous êtes bien entouré. Maria Jo Pires, Augustin Dumais, Renaud Capuçon et Yu Jiawang, c'est le troisième mouvement de ce quintet avec piano de Schumann sur Radio Classique. We'll be right back. quintet avec piano de Schumann, le troisième mouvement, Mariage au Pirès, Augustin Dumay, Renaud Capuçon, Gérard Cosset, Yu Jiawang, Gérard Cosset qui est notre invité avec Clémence de Forceville de ce journal du classique spécial Festival de Pâques d'Aix-en-Provence depuis le hall du Grand Théâtre de Provence. Carte blanche donc ce soir à vous Gérard Cosset, et vous avez invité notamment Clémence de Forceville. Alors le concert de ce soir, vous l'avez donné déjà hier à Manosque, sans Renaud Capuçon. Ça faisait partie, ce concert d'hier, des concerts labellisés, on va dire, musique en partage, puisque le Festival de Pâques a décidé de se délocaliser, on va dire, du moins d'aller ailleurs qu'à Aix-en-Provence. Comment vous voyez cette initiative ? Non, Gérard Cosset.
Oh ben c'est tout à fait positif.
Oui,
pourquoi le concert ne serait donné que dans des grands centres, et puis la mobilité n'est pas donnée à tout le monde, c'est pas évident de pouvoir se déplacer. Je pense que c'est aux artistes d'aller sur place, bien sûr.
C'est vous qui allez au contact du public.
C'est,
c'est important aussi pour vous, Clémence de Forceville. Ouais. Et comment réagit le public alors, justement ? Parce que c'était pas du tout un lieu de concert, enfin, c'était une salle polyvalente. Voilà, c'est ça.
Mais qui se prête très bien au concert.
Oh, mais les gens étaient très enthousiastes.
Les gens étaient adorables, très enthousiastes. Il y avait un pot après le concert, on a pu rencontrer le public, discuter un peu.
Et puis vraiment un public concentré.
Ça, c'est important, le moment d'échange, le pot. Comme ça. Après, ça se fait pas mal dans les petits festivals. Voilà, c'est un grand festival, mais ce moment d'échange est important
moi,
pour vous.
Moi, j'adore.
Ouais, c'est vrai.
Pour moi, c'est la plus grande gratification, c'est de rencontrer le public qui viennent souriants, qui disent ce qu'ils ont aimé ou pas, parfois.
Ils vous le disent aussi, ça, quand
oui,
ils n'ont
pas... Oui, parfois, il n'y a pas forcément des retours positifs, mais c'est vraiment... c'est ce contact humain avec notre public. Pour moi, c'est très, très agréable.
Et quand le retour n'est pas positif, comment vous réagissez ?
Bon, le public en général, bon, je sais pas, Gérard, peut-être t'as eu des expériences négatives, mais en général, ils sont très gentils. Parfois, ils disent ah cette œuvre j'aime moins, ah ce compositeur j'aime pas, ou ils disent ah j'ai entendu cet enregistrement, j'ai préféré l'interprétation de voilà.
Mais il peut y avoir un petit côté provocant histoire
aussi,
de créer
un
rapprochement.
Voilà,
on n'avait pas aimé.
Comme ça, pour vous puissiez renchérir, voilà c'est ça.
Donc, on passe un long moment ensemble comme cela. C'est plutôt astucieux.
Mais le public est habile. Clémence de Forceville, vous êtes chambriste, on évoquait le trio tout à l'heure, Sora, vous avez fait partie d'un quatuor aussi, mais vous n'êtes pas que chambriste, puisque depuis peu vous êtes premier violon solo de l'orchestre de chambre de Lausanne, vous avez occupé ces mêmes fonctions à l'orchestre de chambre de Paris aussi. C'est deux façons différentes, deux rapports différents à la musique.
Oui, absolument, mais qui se rejoignent. En fait, pour moi, mon expérience en tant que chambriste, que ce soit du trio, du quatuor ou les diverses formations que j'ai jouées, ça m'a énormément appris et ça m'a aidé aussi à être un meilleur violon solo. Le poste de violon solo, c'est assez complexe parce que, bon, évidemment, il y a des solos à jouer, il faut du leadership, plus qu'en musique de chambre. Les musiques de chambre, c'est plus démocratique. Alors que violon solo, voilà, il faut vraiment prendre les rênes quelque part de l'ensemble, mais tout en étant très à l'écoute et tout en réagissant un peu constamment à ce que font les autres. Donc quelque part, l'un et l'autre se nourrit. Musique de chambre, orchestre.
Vous êtes jeune, alors justement, comment on travaille avec un orchestre qui représente plusieurs générations d'instrumentistes ? Il y a des gens qui sont là depuis longtemps, d'autres qui viennent d'arriver.
Oui, c'est vrai,
et votre jeunesse est un atout. Comment vous le percevez ?
Quand j'ai commencé, les toutes premières fois où j'ai joué comme violon solo, ma jeunesse était en désavantage.
Vous aviez quel âge ?
La première fois, le premier poste que j'ai eu, c'était à l'Orchestre National de Lille. J'avais 25 ans. Bon, ce qui est jeune, mais il y a aussi des gens qui débutent leur carrière de violon solo à 20 ans. Il y en a qui sont beaucoup plus jeunes. Le problème, c'est qu'on peut apprendre qu'en le faisant. À travers ses études ou en travaillant seul chez soi, on ne peut pas se préparer à ce qu'il faut faire à cette chaise-là. Et c'est qu'avec l'expérience qu'on peut apprendre. Donc quand j'ai commencé, j'avais aucune expérience et forcément c'est un désavantage. Mais c'est pas grave, j'ai appris avec le temps et je continue à apprendre. Je pense que dans 10 ans, j'espère, ce sera mieux.
C'est génial. Je crois que c'est ce que j'avais perçu en fait.
Voilà, vous l'aviez dit.
Qu'elle met en mots.
Ouais, ouais.
Oui, elle a l'âme d'une leader.
Ouais.
C'est pour ça que j'ai jamais pu faire d'orchestre. Moi, je supporte pas d'être leader. Savoir qu'il y a une personne qui lead un groupe comme ça, c'est...
Ça n'est pas pour vous, ça.
Ah, ouais. C'est pas tellement mon histoire.
Et c'est vrai que la musique de chambre, c'est plus démocratique.
Et oui, ouais. C'est ce que
parce qu'en fait, on n'est pas absolument. En groupe. C'est-à-dire, comme quand on joue à 14, 16 violons, ce qui est le cas dans un orchestre de chambre, entre violon 1 et violon 2, si tout le monde va de son côté, ça peut pas marcher. Il faut se regrouper, faire qu'une seule voix. Donc forcément, le chef du pupitre, que ce soit dans les violons, les altos, les violoncelles, en fait, doivent prendre les rênes quelque part et imposer quelque chose. Mais tout en restant souple. Voilà, il ne faut pas que ça tourne à la dictature. Mais
moi, ce qui me fascine souvent, parce que j'ai absolument pas cette expérience d'orchestre, mais ce qui me fascine, c'est de voir, en regardant un orchestre, dans certaines œuvres, je ne vais pas dire toutes, il y a un chef, bien sûr. Il y a toujours un chef qui bat la mesure. Et puis, on voit le violon ou la violon solo, la Kapellmeister, qui lead également.
C'est ça, en fait.
Oui, et en fait, j'ai souvent l'impression que les musiciens, je me dis, ils sont plus attentifs à qui ? Au violon solo, à la violon solo, ou au chef ? Il y a une espèce de jeu qui se fait comme ça. Quelquefois, on voit des chefs qui battent la mesure et des violons solos qui sont très présents. Mmh. Et je trouve que c'est assez amusant.
Parce qu'il y a une époque où il n'y avait pas de chef d'orchestre, et c'était le Kapellmeister qui...
Voilà.
Alors on va écouter, si vous voulez bien, cet orchestre de chambre de Lausanne, mais c'était, je crois, cet enregistrement avant votre arrivée. C'est la chanson de Martin Delgar, et c'est Joshua Wellenstein qui dirige. la magnifique et délicate chanson de matin d'Elgar, l'orchestre de chambre de Lausanne dirigé par Joshua Weilerstein. C'était enregistré en 2020 et 2021, orchestre de chambre de Lausanne, dont vous êtes maintenant au premier violon solo, Clémence de Vorceville, invitée ce soir avec Gérard Cosset du journal du classique depuis le festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Là, on a donc un altiste, une violoniste. Comment se fait le choix de l'instrument? Vous avez commencé, je crois, Clémence de Vorceville, le violon à 4 ans. Et 8 ans, vous, hein, Gérard Cosset?
7 ans.
7 ans, exactement. Bon, ouais. Alors comment on choisit son instrument? Qui répond? Deux, d'ailleurs, une réponse des deux.
Moi, à 4 ans, je n'ai pas le souvenir que j'ai pris une décision consciente.
Ce sont vos parents.
Voilà, bon. c'est plus des parents.
Ouais. On met une poupée dans les mains d'un enfant ou un tracteur.
Mais vous ne l'avez pas renié, cet instrument?
Non, j'étais contente. Mais ce n'est pas venu de moi, je pense.
Bon. Tandis qu'à 7 ans, Gérard Cosset...
C'est mon père qui a
dit. Voilà. Bon. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait qu'après, on garde cet instrument?
Pour ce qui me concerne, c'est très, très particulier. J'étais très fier parce que cet instrument que mon père ne connaissait pas, quand son ami chef d'orchestre lui a dit il faut lui faire jouer de l'alto, mon père a dit saxo alto. Ah non, il a dit non, violon alto. Mon père savait pas que l'alto existait en tant que violon alto, un peu comme mezzo soprano par rapport à soprano. Et alors, tout à coup. J'étais conscient, il a dit, mais on manque tellement d'altistes qu'on leur courra après. Il a eu cette phrase incroyable. Alors moi, j'étais devenu Don Quichotte, quoi. J'ai pris mon alto sur le dos et puis je me suis dit, ça y est, c'est ça mon histoire. Ouais. Enfin, inconsciemment, je pense à 7 ans, mais j'étais tellement fier de jouer de l'alto. Voilà. Surtout que j'ai débuté à l'alto. Alors vraiment,
oui, c'est rare.
À l'époque,
c'est ça.
Il y avait beaucoup d'histoires pas drôles sur les altistes. Donc, je vous passerai le détail.
C'est révolu maintenant, non?
C'est évolu, bon. Oui, absolument. Oui, parce que les nouvelles générations sont extraordinaires.
Les altistes ont fait leur preuve.
Ils ont fait leur preuve. Donc,
vous en êtes responsable justement de tout ça, de cette évolution aussi.
Oui, mais c'est une question de bien endosser le choix que l'on fait dans la vie. C'est un peu comme un choix de partenaire, voilà. On s'est choisi, on s'est coopté. Et je crois que l'histoire des musiciens, des interprètes, c'est un peu cela. Quand on pense que souvent, ce sont les organisateurs de concerts qui font des choix, il y a des impresarios, mais à plus de 80%, ce sont les musiciens entre eux qui se choisissent. C'est-à-dire, il y en a toujours un qui a le privilège de connaître celui qui organise. Ça peut être le violoniste, le violoncelliste, l'altiste. Et on lui dit, proposez-moi un programme. Et il va vers qui? Vers les musiciens qu'il admire, qu'il aime, qui l'ont marqué, avec lesquels il a noué une histoire.
Oui, vous parliez de coup de cœur tout à l'heure, mais c'est ça la
voilà, donc
la
c'est une grande famille, ouais, en fait. Famille. C'est une grande famille qui se construit très tôt.
Alors, on arrive déjà bientôt au terme de cette émission. Je voudrais aborder maintenant avec vous, Clémence de Vorceville, les masterclass, parce que après-demain, voilà, c'est le festival dans toute sa diversité. Après-demain, mercredi, le 27 mars, à 10h, juste à côté, au conservatoire d'Arlius Millau, où va être donné le concert ce soir. Vous allez donner des masterclass aux élèves du conservatoire d'Aix, mais qui seront publics également. C'est important, vous êtes déjà à votre âge, vous êtes jeune encore, de transmettre votre art, votre savoir.
Oui, parce qu'on apprend beaucoup. J'ai commencé à enseigner... Alors maintenant, ça fait 3 ans que je suis assistante au CNSM de Paris, au Conservatoire de Paris, de la classe de violon de Philippe Graffin. Donc j'ai quelques élèves, j'ai une demi-classe qui sont déjà d'un niveau avancé, parce qu'au CNSM, licence, master, c'est des futurs professionnels. Et certaines de mes élèves sont vraiment d'excellentes violonistes déjà. Et pour moi, enseigner, c'est une bouffée d'air frais, en fait. Parce que, au lieu de me concentrer, comme musicien, on est toujours concentré sur soi-même, finalement. On passe tellement de temps à travailler seul, écouter son son, se corriger, s'autocritiquer. Et là, finalement, mon attention est sur quelqu'un d'autre. Comment je peux aider cette personne, écouter, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider, mettre au service tout ce que j'ai accumulé au fil des années, donc les heures de travail personnel, mes cultures musicales, mes émotions, ce que voilà. Et c'est à la fois, enfin, c'est très gratifiant et c'est une bouffée d'air frais, un moment de liberté. On se libère de soi-même un petit peu.
Vous acquiescez, Jean-Marc
Cosset. Oui. Ouais. Et puis c'est de la haute couture, c'est du face à face, quoi. C'est du sur-mesure chaque fois. On fait pas des classes avec. Enfin, quelquefois, on réunit tous ces étudiants, j'imagine, pour faire quelques exercices, des choses comme ça. Mais sinon, c'est un rapport très personnel avec chaque étudiant. Et là, c'est vrai que c'est un peu un miroir. Et on
oui,
reçoit.
Aussi, ouais. C'est vraiment un miroir.
On reçoit beaucoup de.
Vous recevez beaucoup, c'est ça.
On reçoit beaucoup, hein, c'est vrai.
Et le fait que ce soit public, justement, ces masterclass, c'est pas toujours le cas. C'est différent. Ça apporte, le public apporte quelque chose ou vous y pensez?
Pour moi, personnellement, ça change. Non,
ça change pas grand chose.
Ouais. Ça peut stimuler un peu.
Oui, peut-être.
Si on aime le spectacle, oui.
Ouais, mais moi
on est toujours, nous, on est un tout petit peu, on aime bien être sur des planches, alors.
Hein. Et puis le public offre un retour,
alors
immédiat,
si,
non?
Si y a un public, c'est,
bah oui, c'est...
ça met un peu de piquant dans l'histoire, quoi. Même pour l'étudiant, je crois que c'est stimulant aussi.
C'est stimulant aussi. Oui, bon. Eh bien, cette carte blanche ce soir, donc, à vous, Gérard Cosset, avec notamment Clémence de Forceville. Vous reviendrez l'an prochain, a priori, Gérard Cosset.
Oh, ben c'est déjà fait, je pense.
Ah, ben c'est déjà fait, bon, bah, très bien, ça c'est un scoop alors.
Alors je m'aventure d'une façon absolument insensée.
Bon. On en reparlera avec Renaud Capuçon dans certains
moments. C'est gentil.
En tout cas, merci Gérard Cosset, merci Clémence de Forceville d'être venu ce soir pour ce journal du classique. Merci au public du hall du Grand Théâtre. Merci à Lucille Maître pour la réalisation. Prochain enregistrement du Journal du Classique demain à 13h, toujours dans le hall du Grand Théâtre de Provence. Et je recevrai Marc Minkowski qui dirigera La Résurrection de Handel. Ce sera demain à 20h30, le concert avec bien sûr les musiciens du Louvre. Et votre soirée se poursuit sur Radio Classique en compagnie de Francis Drezel. À demain.